Comment un jeune qui a suivi une bonne scolarité, qui a décroché un diplôme bac pro, qui est bien entouré par sa famille, peut aller vers le terrorisme? C'est le thème du dernier film de Philippe Faucon, La Désintégration, qui devrait sortir en février sur nos écrans. La vie des immigrés est bien souvent au centre des films de Philippe Faucon, que ce soit La mémoire des harkis et La guerre d'Algérie avec La trahison, sortie en 2005, ou pour Samia, sortie en 2000, qui suit le combat d'une ado d'origine maghrébine qui a soif de liberté dans la banlieue marseillaise. Pour La désintégration, le réalisateur a pris en main un scénario qui n'était pas de lui, il l'a retravaillé avec deux autres scénaristes. Il s'est appuyé en fait sur plusieurs témoignages de jeunes qui avaient un bon équilibre social, mais qui pourtant ont plongé dans la lutte armée auprès des intégristes musulmans, tel le français Zacharias Moussaoui, jugé pour terrorisme aux États-Unis. L'histoire de La désintégration se déroule dans un quartier de banlieue près de Lille, mais ça pourrait être partout en France. Ali, interprété par Rachid Debbouze, le frère de Jamel, est jeune. Il vit dans une famille musulmane avec un grand frère amoureux d'une Française, une sœur émancipée et une mère bienveillante. Il est donc bien entouré. Mais Ali ne trouve pas de formation malgré un solide bac pro et une multitude de CV envoyés. Il rencontre alors Jamel, de 10 ans son aîné, et cette rencontre va être déterminante. Devant l'échec d'une intégration possible, Jamel oppose un discours fataliste et promet la lutte. Ils seront trois à préparer un attentat au nom de l'islam. Ali sera l'un d'entre eux contre toute attente. Pas de jugement moral dans La désintégration, mais un questionnement, une mise en garde sur l'état de la société française vis-à-vis des jeunes issus d'immigration qui tardent à trouver leur place. Il suffit de se promener dans les quartiers populaires pour entendre ses frustrations de ne pas être vu comme un Français à part entière. Autant dire que ce dernier long métrage de Philippe Faucon sonne juste. Nous avons rencontré le réalisateur pour l'avant-première de La désintégration au Cinémed, le festival du cinéma méditerranéen qui s'est déroulé à Montpellier.
Déjà, laisse tomber, quand tu t'appelles Rachida, l'ordinateur est placé sous l'union rouge. Tu connais pas.
C'est pas un projet qui est venu de moi, c'est un projet qui m'a été proposé par deux jeunes producteurs. C'était pratiquement leur premier film de long métrage. Avant ça, ils avaient fait un documentaire dont on a un peu parlé qui s'appelle Benta Bilili, dont vous avez peut-être entendu parler. Et ils m'ont proposé ce scénario qui n'était pas très bon, pas très bien écrit, mais que j'ai accepté parce que ça rejoignait un intérêt, je crois, que j'avais pour les questions qu'aborde le film. Parce que moi, je m'étais intéressé de mon côté, par exemple, à l'histoire de Zacharia Moussaoui, qui a été accusé d'être, et qui a revendiqué d'être le 20e pirate de l'air parmi les gens qui ont attaqué le World Trade Center. Donc je m'étais intéressé à cette histoire à l'époque, et à d'autres aussi, moins médiatisées, moins connues. Et à propos de Zacharia Moussaoui, je m'étais intéressé à lui en particulier parce que je me rappelle que j'avais vu des photos de lui très jeune, et c'était des photos d'un jeune garçon souriant sur les photos, plein de vie, qui avait une vie comme celle de tous les garçons de son âge, qui sortaient, qui fréquentaient des filles, dont le meilleur ami était un jeune garçon juif. Et c'est un garçon qui a eu ensuite une histoire qui a un peu échappé à son entourage. Moi, j'avais lu le livre de sa mère et le livre de son frère, qui a eu une histoire qui a un peu échappé à son entourage parce que, voilà, il a éprouvé une déception très grande par rapport à ce qu'il attendait au niveau de ses espoirs quant à sa vie professionnelle, etc. Il a éprouvé une déception comme ça, assez importante par rapport à la France. Il est parti en Angleterre à la suite de ses études, ne trouvant rien ici. Et en Angleterre, il s'est comme ça un petit peu éloigné de sa famille. Il a à un moment cessé de... Il a donné des nouvelles très espacées. Et son frère et sa mère ont appris par la suite qu'il avait commencé à fréquenter une mosquée radicale à Londres. Et donc voilà, il a eu le parcours que l'on sait aujourd'hui. Et dans les dernières images qu'on a de lui, effectivement, on a un personnage très différent de la façon dont il apparaît quand il était jeune. C'est-à-dire, on a un personnage avec un regard vide, avec un discours de robot, avec un discours très violent, très, très antisémite, enfin, du moins très judéophobe. Voilà, donc c'est ce qui m'avait un petit peu... comment dire, c'est ce sur quoi j'avais commencé à me pencher concernant cette histoire. C'est-à-dire, j'avais commencé à me demander comment c'était arrivé, un peu de la même façon que ses proches. Comment ça avait pu se produire.
À 20 ans, Zacharias ne s'intéresse guère à l'islam. Étudiant en BTS à Perpignan, il ne laisse à ses amis de l'époque qu'un seul souvenir, celui d'un joyeux fêtard.
Pour les gens qui ont connu Zacharia Moussaoui, quelqu'un qui était apprécié, avec qui, je répète, on avait de franches parties de rigolade, quelqu'un, on se disait, bon ben voilà, c'est, voilà quelqu'un qui va symboliser un peu l'intégration.
Figure de l'intégration ou de la dissimulation.
Je veux faire un film de cinéma, je veux pas faire un dossier d'enquête pour, je sais pas quoi, le Nouvel Observateur ou Envoyé Spécial. Ou, je veux pas faire de sensationnalisme, je veux pas faire de jugement, comment dire, asséné comme ça sur les choses. Je veux donner un peu à percevoir quelque chose et puis et surtout à laisser le spectateur libre de sa réaction. Donc je cherche pas à l'enfermer dans un truc où on lui dit voilà ce qu'il faut déduire de tout ça et penser de tout ça. Voilà, j'essaye de mettre ensemble des aperçus, des impressions sur quelque chose qui se passe, qui est un peu dans l'air aujourd'hui, et puis pour donner chair, donner corps à des choses. J'apprends rien à personne, je pense pas. On sait que ce genre de recrutement, ça se fait à partir de telles situations, de telles fragilités, de tels désespoirs, etc. Mais là, j'essaie de dans un film de donner corps et chair à ces personnages pour permettre à un spectateur de se les représenter davantage. C'est un avertissement d'une situation qui porte en germe des risques, des dangers, voilà. Et pourquoi et pour quelles raisons, voilà. En tout cas, l'avertissement, c'est certainement pas « attention, il faut se méfier de tout ce qui, tout ce qui porte un nom bizarre » et voilà.
Tu fais quoi? Tu fais des études?
Ouais, j'ai passé un bac pro.
Quel bac?
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés.
Ça débouche sur quoi, ça?
Enfin, de la maintenance préventive ou du diagnostic de panne sur les systèmes mécaniques automatisés.
Et ça te plaît?
Ça va. Je suis en formation. On reste plus qu'à trouver un stage maintenant.
Et tu trouves?
Je cherche.
Il y a quelque chose qui se passe insidieusement et qui fait que le personnage de plus en plus s'isole. Et isolé, de la même façon que ça a dû arriver à ce garçon là dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire son frère raconte qu'il s'est aperçu en allant sur place à Londres qu'effectivement on avait commencé par le couper de toute autre influence, de l'influence de ses parents, lui disant tes parents sont dans l'erreur, etc. Donc on l'a enfermé dans un discours à sens unique. C'est la même chose que des captations sectaires, c'est exactement la même chose, c'est du même ordre. C'est-à-dire les gens qu'on essaie comme ça de manipuler, la première chose à faire, c'est de les couper de toute autre influence. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Petit à petit, le personnage comme ça s'enferme, s'éloigne des siens parce qu'on on les discrédite et puis petit à petit, il a cette dérive. Qui dans le film va très loin, qui dans la réalité ne va pas toujours forcément aussi loin, mais bon, la fin du film a aussi un sens métaphorique pour moi. C'est en même temps que ça peut avoir aussi un sens très réaliste, quoi. C'est quelque chose qui reste possible.
Alors ?
C'est bien. Non, elle est bien. T'as eu aucune réponse?
Non.
Qu'est-ce que change là-dedans?
Ton nom.
À part ça, qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'ajoute? Qu'est-ce que j'améliore?
Tu peux... On va trouver.
Moi, je suis né au Maroc. Je suis marié avec une jeune femme d'origine algérienne. Donc, en fait, les gens avec qui je vis autour de moi sont les gens que j'évoque dans... dans mon film. Et autour de moi, j'ai entendu parler d'histoires de garçons dont leurs amis racontaient, je ne sais pas ce qui s'est passé, on lui a retourné la tête, tout d'un coup il s'est mis à être très différent, etc. Bon, ça, sans que ça aille forcément toujours aussi loin, mais aussi bien moi que Rachid, on connaît des... Rachid, lui, des histoires de gens qui sont partis, qui ont disparu, qui sont partis en Bosnie, en Irak, etc. Ou simplement qui se sont tout d'un coup comme ça enfermés dans un truc sectaire et de rejet de tout le reste. Voilà. Il y a plusieurs discours qui se revendiquent de l'islam. Il y a celui de l'imam, il y a celui de la mère, il y a celui de ce type que le personnage raconte, et là qui est effectivement un discours religieux, mais mis au service d'un dessin politique.
Ici, ça va péter. Je le sens, moi. J'ai grandi ici, je connais les jeunes. Avec leurs profs, ils sont irrespectueux. Il y a trop de décalage, ils les croient plus. Moi, ils me croient. Parce que je les écoute. Il n'y a personne d'autre qui le fait. On les dévalorise toujours, on leur envoie toujours une mauvaise image d'eux.
Ces jeunes, plus personne ne les écoute, plus personne ne leur parle. Moi, je leur parle. Parce que moi, j'ai la même histoire qu'eux. Bon, sans doute, voilà, à un moment, on aperçoit un petit peu que c'est quelqu'un qui a eu le même, sans doute la même histoire, un peu. Il y a un moment où il dit, à mon époque, à moi, c'était pire encore. Voilà, il dit, il ne croit plus leur prof. Il y a trop de décalage. Donc, en effet, lui reste le dernier interlocuteur de ces jeunes. Par rapport à ce personnage, pour le construire, on a beaucoup travaillé et on s'est beaucoup documenté. Alors, moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises quelqu'un qui s'appelle Mohamed Sifawi, qui est quelqu'un qui a beaucoup... qui est un journaliste, qui est un peu... comment dire... qui est quelqu'un d'un peu contesté, mais qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Voilà, j'ai rencontré des jeunes qui avaient eu des tentations de cet ordre-là à un moment, qui en étaient revenus. J'ai qui me parlaient de la façon dont ça s'était passé. Je me suis beaucoup documenté. J'ai rencontré des policiers, sur le net aussi. On trouve pas mal de propagande islamique radicale, et on voit bien sur quoi ça s'appuie. Et pourquoi ça peut être dangereux? C'est parce que c'est une chose que dit Mohamed Sifawi. Dans le discours qu'ont ces gens pour approcher les jeunes, comme c'est dit à un moment dans le film, ils savent mélanger le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'il y a des choses par rapport auxquelles on ne peut pas leur dire que ce n'est pas vrai. Et des choses par rapport auxquelles des gens qui ont... des intentions, je ne sais pas, de contrecarrer ce discours, des intentions républicaines, etc., ne peuvent pas dire à ces jeunes, c'est pas vrai. Quand ils leur disent, regarde ce qui se passe, regarde comment tu vis, vous n'avez accès à rien, vous n'avez droit à rien, etc., c'est pas toujours simple de leur dire, mais non, c'est pas vrai. Y a un garçon qui m'en parlait très bien en disant, mais c'est très très simple la façon dont ils procèdent. Ils vont dans un quartier complètement ghettoisé, à l'abandon, et ils disent, ils approchent quelqu'un en lui disant, regarde ce qui se passe. Regarde l'œuvre de la France, le travail de la France. Ta sœur se prostitue, ton frère se drogue, tes amis tiennent le mur, vous n'avez droit à rien, et soi-disant vous êtes des Français. Et c'est pas faux. Bon, mais ça, ils savent le présenter et le mélanger à d'autres choses qui sont des choses en général extrêmement dangereuses.
Ils ont peut-être eu besoin de vos parents un moment pour ramasser des poubelles et tenir des marteaux-piqueurs, mais à partir du moment où vous aspirez à faire autre chose, là, ils veulent plus de vous. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils pensent que vous valez moins qu'eux.
Mais le prof, je trouve, il a un discours de rester avec ce garçon. Il lui dit, même si tu penses que les recruteurs sont des racistes, tu leur envoies quand même ton CV. Parce que si tu ne le fais plus, tu t'exclus Et c'est pas à toi de t'exclure toi-même, c'est à eux. Si ce sont des racistes, c'est à eux de le faire. Voilà, bon, mais il y a un moment où ça n'a plus prise.
Voilà.
Parce qu'effectivement, il y a un moment où ça paraît être des mots creux et vides de sens par rapport aux réalités que vit ce garçon. Cette histoire, c'est un parcours solitaire et isolé. Il y a un autre moment où le prof lui dit des Arabes et des Noirs qui réussissent, il y en a. Il n'y a pas que des gens qui échouent et qui... mais voilà, cette histoire-là a aussi une valeur significative de quelque chose d'important quand même. Le film portait un autre titre qui n'était pas un bon titre, que moi j'aime pas, que j'aimais pas, que je ne vais pas rappeler, mais oui, oui. Et donc, quand il a fallu choisir un titre, voilà, on a commencé à réfléchir là-dessus, on a eu du mal, on a épuisé d'idées. Et le titre, c'est un des deux producteurs qui en a eu l'idée. Et moi, quand il l'a évoqué, ça a fait tilt chez moi parce que ça m'a rappelé à un moment, quand je tournais un film qui s'appelle Samia, il y a une dizaine d'années, à Marseille, c'était un mot que les jeunes employaient, que je me rappelais l'avoir entendu dans la bouche de jeunes des quartiers. C'était un mot qu'ils employaient avec ironie par rapport à eux, à leur situation, parce qu'ils étaient tout le temps devant cette demande de s'intégrer, de montrer qu'ils pouvaient s'intégrer, etc. Et donc, ils employaient ce mot avec ironie pour exprimer le fait qu'en réalité aussi, ils vivaient une désintégration sociale d'eux-mêmes, c'est-à-dire difficulté d'avoir accès à plein de choses. Bon. Et donc, quand le producteur a proposé ce titre, j'ai dit d'accord. C'était un titre qui paraissait pas facile, pas maniable, hein, le mot un peu lourd, un peu. Mais on s'est tous entendus sur ce titre. Et puis vous avez raison, il a aussi un sens multiple, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée, on peut aussi avoir l'idée, par exemple, d'une désintégration sociétale, d'un suicide sociétal, etc. Bon.
Physique,
du personnage, évidemment.
Et toi, t'es pas raciste, peut-être? Si, je suis raciste. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils te le font devenir.
Ça peut se passer n'importe où. Ça peut se passer à Marseille, ça peut se passer à Lyon, ça peut se passer à Paris, ça peut se passer à Lille.
Il y a d'ailleurs beaucoup d'intérieurs, hein, finalement. Oui. Il y a qu'un seul moment, d'ailleurs, où on voit une grande tour. Sinon, les lieux, on ne sait pas vraiment où ça se passe. Enfin, voilà, vous avez fait un effort particulier pour ça, j'imagine. Pour pas inscrire vraiment l'histoire dans un lieu précis.
C'est vrai. À Marseille, il y a beaucoup d'intérieurs. C'est un film un peu comme ça, dans l'enfermement, en lieu clos, dans une forme d'autisme. Donc tout ce qui est l'endroit où l'endoctrineur, le recruteur les endoctrine, c'est en effet tourné à Marseille. C'est un film qui s'est fait sur un temps de tournage très court, donc il a fallu faire des choix en fonction du temps qu'on avait. Donc il n'y avait pas forcément la possibilité de tourner des extérieurs compliqués. Et voilà, moi j'ai choisi de ne pas marquer à gros traits le lieu géographique. Il est simplement un peu évoqué et ça suffisait. C'est-à-dire, en fait, il y avait 35 jours de tournage, 37 semaines de 5 jours, moins un jour de déplacement entre les deux régions, PACA et Nord. Donc ça fait 34 jours de tournage, ce qui est très court, et ce qui fait qu'on n'a pas pu tourner l'intégralité du scénario qu'on avait écrit. Il a fallu un moment faire des choix.
Et oui, faire des choix. Par manque de moyens, parce que l'industrie cinématographique préfère deux versions de la guerre des boutons qu'une bonne fiction sociale. Même si le scénario de Philippe Faucon a été amputé de quelques minutes, la trame est limpide, les personnages et les acteurs convaincants. La désintégration devrait sortir sur les écrans en février 2012.